L'évangile de la résurrection de cet adolescent de Naïm est une chose absolument merveilleuse, dont je vais bien sûr vous parler. Mais saint Paul est tellement extraordinaire aujourd'hui, enfin il est toujours extraordinaire. C'est un géant et c'est un génie. Et c'est aussi le génie de Dieu d'avoir choisi Paul, que je veux quand même dire un mot sur lui. Il raconte sa vie. Oui, c'est une autobiographie. Il dit, l'évangile que je vous prêche, il vient de Dieu. J'ai une révélation directe, moi, l'apôtre. Il se nomme apôtre, parce que Dieu l'a appelé à être apôtre. Ça, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Vous savez, les 12, ce sont les apôtres historiques, ils sont juifs. Mais ils ont tellement peur. Pourtant, le Christ a dit le lendemain de la résurrection, partez, fichez le camp, ne restez pas là, allez dans le monde entier, je suis venu sauver le monde. Mais ils ont peur, c'est toujours les traditions juives. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur? Vous avez vu, Dieu n'a jamais contraint par nos bêtises, nos peurs, notre inintelligence. Dieu n'est pas contraint par nos pensées, alors il appelle Paul. 12 demeure quand même le nombre du collège apostolique. Mais il prend Paul en plus. Il l'appelle et le jette sur les peuples. Il lui dit, vas-y. Vous avez vu, Paul, à un moment donné, il a peur. Et le Saint-Esprit lui dit, vas-y, je suis avec toi. Il y va. Courageux. Et là où est l'intelligence divine, il appelle un juif, juif, juif. Paul est un pharisien. C'est ce qu'il y a de mieux en Israël, c'est un théologien. C'est un grand Paul. Il connaît toute la Bible par cœur. Il a lu toute l'exégèse qui a été faite par les Juifs depuis toujours. Il dit, j'étais plus instruit que beaucoup d'autres dans les traditions de mes pères. Voilà le génie de Dieu. Et cet homme qui est un pur Juif, il va dire, Jésus est le Messie. Il va le dire au monde entier. C'est lui qui va convertir le monde. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce que c'est un homme inattaquable, Paul. C'est un homme dont on ne peut faire aucune critique. C'est un vrai juif. Un pharisien. Vous savez, c'est les pharisiens qui ont condamné à mort le Christ. C'est les prêtres, les scribes et les pharisiens. C'est eux qui l'ont condamné à mort. Parce qu'ils les dérangeaient. Parce qu'ils les gênaient dans leurs habitudes, parce qu'ils étaient jaloux. Le Seigneur prend un pharisien. C'est un homme inattaquable, Paul. Et il le jette vers les gentils. Il a l'audace, le courage d'y aller. Ce que je veux souligner aussi, c'est une chose très belle chez cet homme, qui est un géant. Il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je n'ai pas demandé des conseils à droite et à gauche. Je suis parti en Arabie. Pendant 3 ans, il s'est retranché dans la prière. L'Arabie, c'est un désert. Pendant 3 ans, il s'est préparé à sa mission. Il a fait comme le Christ. Il s'est intériorisé avant de partir. Après seulement, il est allé visiter Pierre et Jacques de Jérusalem. Mais il n'est pas allé leur demander l'autorisation. Il n'est pas allé demander à Pierre, est-ce que je peux le faire? Il a dit, je suis apôtre du Christ. Eh bien, nous devons aussi agir comme ça. Quand nous sommes visités par Dieu, quand le Saint-Esprit nous visite, on n'a pas consulté à droite, à gauche. Il faut faire ce qu'il nous dit et y aller avec courage. L'homme est libre, mais la liberté de l'homme est en Dieu, dans le Saint-Esprit. Je vais dire maintenant un mot de l'Évangile, mais je voulais dire un mot sur Paul. Tellement cet homme est merveilleux. C'est le plus grand théologien de l'Église. Le mot me manquait tout à l'heure. C'était, il est incontestable et incontesté. Personne ne peut dire un mot sur Paul. Et il dit, Jésus le Messie. Alléluia. L'Évangile est formidable, mais tout est formidable. Le Christ vient de faire son grand discours au programme. Vous savez, sur le monde des béatitudes, la nouvelle loi. Discours inaugural. Le serment sur la montagne. Vous avez remarqué que d'abord le Christ parle. Il est la bouche du Père Il est le Verbe de Dieu. C'est lui qui nous révèle les pensées du Père. Il est venu pour ça. Il dit, je ne suis venu que pour ça. Je ne suis pas venu pour régler vos petits problèmes techniques. Je suis venu pour ça. Mais après avoir parlé, après avoir dit la vérité avec un V majuscule, après, il accomplit des actes thaumaturgiques. Ce sont des miracles. Parce qu'il fallait que ceux qui l'écoutaient vissent qu'il était vraiment le Messie. Alors il fait des miracles. Il guérit le fils, le serviteur du centurion. C'est un malade incurable. Il est en train de mourir. Personne ne peut faire ça. Puis, presque aussitôt après, il va ressusciter ce jeune homme. Mais il fallait qu'on comprenne qu'il était le Messie. Vous voyez ? Mais il a d'abord parlé. S'il avait commencé par faire des miracles, les gens auraient pu se dire, il est sans ça cet homme, il est vraiment fort. Donc on l'aurait suivi que parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Il ne voulait pas. D'ailleurs, souvent quand il fait des miracles, il dit, taisez-vous, ne dites rien. Il veut convaincre par la vérité. Et pas en épatant les gens. Il va dans une petite ville qui s'appelle Naïm. C'est à 30 kilomètres au sud-ouest de Capharnaüm. Et de Naïm, on aperçoit Nazareth. On a une belle vue sur Nazareth. Bien. C'est une ville juive traditionnelle. C'est une espèce de forteresse. Puis il y a une porte. Il n'y a qu'une porte. Naïm, en hébreu, ça veut dire bonheur. Il y a deux sens qui se rejoignent. Il y a à la fois la beauté et le fait que ce soit agréable. Naïm, ça veut dire délicieux. Naïm, c'est la ville du bonheur. Et à la porte de cette ville de Naïm vont se croiser deux cortèges. Ces deux cortèges sont conduits par un jeune homme. Il y a le cortège descendant qui sort de la ville du bonheur. Il est conduit par un mort. Et les traductions étaient très très mauvaises. Je suis toujours énervé par cette mauvaise traduction qu'on a de l'évangile. C'est pas un homme, et c'est même pas un jeune homme. Dans le texte latin, c'est adolescens, un adolescent. C'est un gamin de 14 ans. Tout jeune homme, il est mort. Il conduit le cortège descendant. C'est une pompe funèbre. Pompe pas en latin, c'est le cortège. Une pompe funèbre. Et puis derrière, il y a sa mère qui est en larmes. Ouais, ça, c'est le cortège qui sort de la ville de bonheur. Et le Christ a tout un cortège avec lui. Il a non seulement les 12, mais une foule, parce qu'il a déjà parlé. Il a parlé à énormément de gens. Et le Christ, lui, c'est pas un jeune homme, mais il est jeune. Mais c'est un homme. Il a 30 ans. C'est-à-dire que c'est un homme mûr. Mais un homme jeune. C'est l'âge éternel. Il conduit ces gens-là vers le bonheur. Alors, tout ceci est réel. Tous ces événements sont vrais. Ce jeune homme, il a existé, la maman, elle a existé. Mais c'est aussi extrêmement symbolique. Tout ceci est extrêmement symbolique et vous le retrouvez dans l'Église. Tout le sang humain, c'est Naïm. C'est la Jérusalem céleste. C'est la ville de bonheur. Là où Dieu est tout en tous. Le vrai bonheur. Vous avez remarqué qu'il n'y a qu'une porte dans le sanctuaire chrétien. Ça, c'est pour le service. C'est la porte qu'on appelle royale. C'est la porte du Christ. C'est lui qui nous a réouvert la porte du paradis. Et tous ici, le Christ nous conduit vers ce bonheur. Le prêtre, il n'y est que par fonction, pas parce qu'il est bien. Nous, on est comme vous, le clergé. On est en route. Le Christ nous emmène vers cette ville de bonheur. C'est ça le sens profond. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux origines de l'humanité? Le jardin des délices existait, Dieu l'a créé, mais on était chassés. C'est le cortège descendant. Et cette veuve qui pleure, elle symbolise d'abord Ève. Ève a engendré un homme pour la mort. Le jeune homme, c'est l'humanité dans l'enfantillage du péché. L'humanité qui n'est pas mûre. Vous avez le Christ, il a 30 ans, il est mûr. Et là, c'est un gosse, un adolescent. L'humanité dans l'enfantillage du péché. ce cortège descendant de cette veuve qui pleure. Ève pleure d'avoir engendré l'humanité pour la mort. Elle est en larmes. Et ces deux cortèges se rencontrent. Il y a le Christ qui conduit son cortège vers le bonheur et ceux qui fuient le bonheur. En plus, Naïm, c'est un flanc de montagne. Donc, il monte vraiment. C'est une véritable élévation. Et les autres, ils descendent. Alors, il pourrait ne rien se passer du tout. Rien. Cette femme, elle n'a jamais vu le Messie. Le rabbi Yeshua de Nazareth, elle n'a pas entendu parler, c'est pas qui c'est. Elle est complètement dans ça, dans son malheur. Elle est complètement là. Vous savez, une veuve dans l'Antiquité, c'était absolument tragique. Dans l'Antiquité gréco-romaine, une femme passait de la domination de son père à celle de son mari, si le mari mourait, à celle de son fils aîné. Mais là, il n'y a plus personne. Elle n'est rien. Elle n'a pas de statut social. Elle n'est rien. Terrible, le statut des veuves dans l'Antiquité. Alors, il pourrait ne rien se passer, mais voilà. Le Christ l'a vu. Ça, c'est extraordinaire. Le Christ l'a vu. Le texte était très mal traduit. La bonne traduction, c'est « ému de compassion ». Vous savez ce que c'est qu'une émotion ? C'est on en tremble dans tout son être. Une émotion, c'est aussi physique, c'est pas seulement abstrait. Ému de compassion, il en tremble de douleur pour elle. La compassion, c'est souffrir avec. Dans le texte latin, c'est miséricordia. Ému de compassion. Elle n'a rien demandé, mais il l'a vu. Tout être humain peut se dire, peut-être Dieu veut me voir. Et il va faire trois choses, le Seigneur. Alors que cette femme ne demande rien. Il dit, ne pleure pas. Vous avez vu, le Christ console d'abord. Dieu console d'abord. Quand c'est un démon qui se cache sous une forme angélique, il dit, tiens, c'est bien fait pour toi. Ah, ta maladie, tac, prof, tu payes. Mais vous avez vu comment il fait le Christ ? Ne pleure pas. Merveilleux, hein ? Comme une maman. Ne pleure pas. Deuxième geste, il arrête le cortège. C'est dit dans l'évangile. Il pose sa main sur le cercueil. Le Christ, c'est celui qui stoppe la mort. Ça suffit, arrête. Je t'ordonne d'arrêter. Il arrête le cortège descendant qui va vers le malheur éternel. Troisième acte. Il commande à la mort. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Mais il parle à un mort. Il commande à la mort. Jeune homme s'assied. Dans le texte latin, c'est surge, surexit, ça veut dire ressuscité. Allongé, c'est mort. Debout, c'est ressuscité. Surge. Ça ne s'arrête pas là. Quatrième acte, il le rend à sa mère. Et à ce moment-là, nous pouvons estimer que la mère, l'ancienne, enfin la veuve, est toujours veuve, elle est aussi un symbole de Marie. Parce que Marie est celle qui intercède pour toute l'humanité. Elle n'arrête pas de dire à son fils, « Regarde mon fils, ils sont malheureux. Et pitié, ils n'ont plus de vin. T'as vu comme ils souffrent ?» Elle n'arrête pas d'intercéder. Et quand Marie est au pied de la croix, Jésus lui confie Jean. Il lui confie l'humanité sauvée. Vous voyez ? Donc, à ce moment de cette histoire vraie, la femme symbolise aussi Marie. Elle a symbolisé Ève, et là, elle symbolise Marie. Mais la fin de l'histoire n'est pas dite dans l'évangile. Mais tout le cortège rentre dans la ville du bonheur. Tout ça. On ne va plus vers le malheur éternel. Les deux cortèges ne font plus qu'un et rentrent dans la ville du bonheur. Et à celui qui nous donne le bonheur, le Christ soit la gloire pour les siècles des siècles.